Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Actuellement, et depuis un certain temps déjà, lorsque j'écoute un débat à la télévision, je suis en général atterré par la tournure que prennent les débats en général. Il y a d'abord les attaques verbales entre les invités. Et puis il y a les invectives, souvent suivies par des insultes. Et en écoutant, jamais très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ça m'ennuie, en écoutant ces gens qui sont prêts à se taper dessus, il faut bien dire le mot, pour des idées, pour leurs idées, parce qu'ils sont persuadés d'avoir raison, cela me fait penser à une des périodes la plus troublée de notre histoire. Et ça me fait penser plus particulièrement à un homme qui a marqué cette période. Je veux parler de Robespierre. Alors, Robespierre, bon, au départ, rien ne semble le destiner à la carrière politique qu'il va faire. Il est né à Arras en 1758. Il fait des études. Son père l'abandonne, sa mère est décédée. Et il va être élu député du tiers-état, bien sûr, en 1789, après avoir obtenu son diplôme d'avocat en 1781. À l'époque, je dis en 1789, le député d'Arras a des idées très généreuses. Il est pour l'abolition de la peine de mort, oui. En début de carrière, Robespierre était pour l'abolition de la peine de mort. Quand on pense à la terreur, ça vous laisse un peu surpris. Il est aussi partisan de l'abolition de l'esclavage. Mais reprenons un peu les événements dans leur enchaînement. Revenons en 1789. Louis XVI est roi depuis 1774, depuis 15 ans. Et puis, en 1789, il est obligé de convoquer des États généraux. Avec 285 nobles, 291 membres du clergé et 578 élus du tiers-état. Mais au départ, les députés votent par ordre, donc automatiquement le tiers-état n'arrive pas à se faire entendre, jusqu'à ce que on instaure le vote uninominal, sans tenir compte de l'origine du député. Et désormais, le tiers-état prend la majorité. Et on arrive en juin 89 avec l'Assemblée nationale. Le 20 juin, le serment du jeu de pommes. Et le 14 juillet, la prise de la Bastille. En soi, Ce n'est pas un événement extraordinaire malgré les morts qui l'ont accompagné, il y en aura bien d'autres. Mais c'est resté le symbole du changement de régime, puisqu'on fête toujours notre fête nationale le 14 juillet. Arrive la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, on peut dire que c'est la fin de l'ancien régime. Tous les privilèges sont abolis. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Au passage, les gens qui ont voté l'abolition des privilèges, ceux qui ont dû se résigner à cette abolition, je crois qu'ils n'ont pas bien perçu la portée de l'événement, notamment le roi Louis XVI, qui semble n'avoir pas compris grand-chose à ce qui se passait autour de lui.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Et les choses vont continuer plus ou moins. Le 14 juillet 1790, on va commémorer en présence du roi la prise de la Bastille. Le roi est à Versailles, mais très vite, les Parisiens, lassés de n'avoir rien à acheter dans les boutiques d'alimentation, commencent à protester. Et puis, des femmes se mettent en marche de Paris jusqu'à Versailles. Et elles vont revenir sur Paris avec, dans un carrosse, le roi, la reine et le dauphin. Louis XVI apparemment se résigne à cela, mais le 20 juin 1791, il s'enfuit, ou il n'ira pas loin. La famille royale était logée aux Tuileries depuis son retour de Versailles. Et puis le roi a voulu fuir pour rejoindre les troupes étrangères. Mais sans se rendre compte que s'il voulait que sa fuite réussisse, il fallait qu'il soit discret. Et le 20 juin, le 21, pardon, le lendemain de sa fuite, il est arrêté à Varennes, ramené à Paris et fait prisonnier. Oh, pas tout de suite. On va attendre 1792 pour l'emprisonner au temple, le 13 août exactement. Et c'est là en 1792 que commence vraiment le règne de la Révolution. D'abord, peu après, il y a ce qu'on a appelé les massacres de septembre, c'est-à-dire que des hommes du tiers-état, des hommes du peuple vont envahir les prisons et massacrer tous les nobles qui pouvaient s'y trouver enfermés. Au passage, je cite cet exemple de la princesse de Lamballe, une amie de Marie-Antoinette, de la reine Marie-Antoinette. Et elle devait être décapitée, bien sûr. On va lui arracher les organes génitaux qui vont servir de parure à certains de ces assassins. Au passage, 1792, c'est aussi une date importante parce que c'est l'invention de quelque chose qui va être utilisé. Le 25 avril 1792, a lieu la première exécution publique avec la guillotine. Alors, la guillotine, c'était quoi ? Bon, c'est le député Guillotin qui a proposé de remplacer les anciens systèmes de punition par cet instrument. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a laissé son nom à la guillotine. Ça a été créé par un facteur de piano et de clavecin, et d'après les directives d'un docteur, Antoine Louis. Signalons quand même que la guillotine, inaugurée, si j'ose dire, le 25 avril 1792, va fonctionner en France jusqu'en 1977. Rarement une invention n'aura eu une telle existence. La dernière exécution capitale par la guillotine a eu lieu à Marseille en 1977. Alors, les événements vont s'accélérer. Le 21 septembre 1792, la monarchie est abolie. Alors, ce n'était plus qu'une formalité, il faut bien le dire. Le lendemain, on va instaurer un truc qui a marqué les livres d'histoire. L'instauration du calendrier républicain. On a supprimé tous les anciens noms de mois. On a même décalé les dates. Et les noms du calendrier républicain, peut-être vous ne savez pas, mais ont été inventés par un poète connu, Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine, c'est celui qui a écrit cette chanson que tout le monde connaît encore, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons là. Il a fait une liste. Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose. Oh, les choses n'ont pas tellement changé. Combien d'hommes politiques s'imaginent qu'en changeant le nom des choses, on change ces choses elles-mêmes? Cela dit, la situation en France n'est pas très simple. Il y a la guerre. Il y a une guerre civile qui a commencé en Vendée parce que beaucoup de Vendéens ne supportaient pas que les hommes d'Église soient obligés de prêter serment à la Constitution. Alors, il y a la Convention qui travaille. Il y a deux pôles essentiels à la Convention. Les Girondins, on dirait aujourd'hui. Oh, les modérés et les montagnards, avec à leur tête deux hommes, Robespierre et Danton. Deux hommes à la tête d'un parti ou d'une tendance. L'histoire nous a appris combien de fois que c'est un homme de trop qui, automatiquement, il y en a un des deux qui va disparaître. Mais alors, à ce moment-là, la République est menacée. Et c'est là que Robespierre commence à prendre vraiment le pouvoir en créant le comité de salut public, dont il prend la tête, bien sûr. Et Robespierre décide. Rien de moins que de sauver la France. Et pour cela, il n'allait pas tarder à mettre la terreur à l'ordre du jour. Je vous propose une pause musicale.
Thank you.
Radio Grand Ciel.
Nous sommes toujours en 1793 et le 21 janvier, Louis Capet, l'ex-roi Louis XVI, a été guillotiné. Marie-Antoinette sera exécutée le 16 octobre de la même année. Notons au passage que l'ex-roi sur l'échafaud a voulu parler au peuple, voulu parler au public. Les roulements de tambour ont fait que personne n'a rien entendu de ce qu'il avait déclaré. Comme quoi, et c'est toujours d'actualité, pour ne trahir un adversaire, rien de tel que de l'empêcher de parler, ce qui explique peut-être nos prises de bec dans les débats télévisés. Et les choses vont empirer. Les Girondins seront les premiers victimes de cette terreur. Après la mise en place de la loi des suspects en 1793, qui faisait que parfois les accusés n'avaient même pas la possibilité de se défendre. 21 députés girondins seront décapités grâce à cette guillotine. Mais les choses évoluent. Les armées françaises résistent, reconquièrent leur territoire sur les armées ennemies. Et beaucoup pensent qu'il est temps d'arrêter la terreur. Et notamment l'ancien compère, ami, complice de Robespierre, Danton. Danton est partisan d'arrêter la terreur. Robespierre refuse. Et Danton est exécuté le 5 avril 1794. Avec lui, un autre ancien ami de Robespierre, Camille Desmoulins, et dans la foulée, sa jeune épouse, Lucille. L'amitié ne compte pas lorsqu'il s'agit de sauver la France. Rappelons-nous les dernières paroles de Danton, disant au bourreau « Tu montreras ma tête au public, elle en vaut la peine. » Et Robespierre continue sur sa lancée. Il tombe dans un délire, on peut appeler ça autrement, en instituant la fête de l'être suprême, en disant que les gens sont tous issus de cet être suprême. Alors, c'est curieux d'ailleurs. Cet être suprême qui se veut en dehors des religions et qui en même temps montre une pensée mystique très forte. Remarquez, à Chartres, peut-être vous en rappelez-vous, la fête de l'être suprême a sauvé un des joyaux de la cathédrale. Rappelez-vous, dans le chœur, cette immense statue de Bridan montrant l'Assomption de la Vierge. Le maire de l'époque a fait ni une ni deux, il a mis un drapeau bleu, blanc, rouge sur la statue et décidé de la consacrer à la célébration de l'être suprême. Quand on voit les destructions qui ont eu lieu dans d'autres églises, on se dit que finalement, grâce à l'aide suprême de Robespierre, l'assomption de la cathédrale de Chartres a peut-être échappé à la destruction.
RGC.
Mais les choses tournent. Et finalement, l'aventure s'achève le 27 juillet 1794, le 9 terminant. Robespierre est arrêté. Il est arrêté en compagnie de Saint-Just, de Couthon. Il est exécuté le 29 sans avoir passé devant des juges au cours d'un procès. Et c'est là où par la suite montre que ces êtres imbus d'eux-mêmes, persuadés qu'ils sont la vérité et la vie, peuvent se révéler d'incroyables dangers. Rappelez-vous, Robespierre est exécuté en 1794, notons au passage qu'il a essayé de se suicider, mais qu'il a raté complètement son suicide et que c'est la mâchoire fracassée qu'il a été guillotiné. Alors après la chute de Robespierre, eh bien, il va y avoir le directoire qui succède à la Convention en 1794. Et puis, il va y avoir le consulat. Et parmi ces consuls, il y a un jeune homme dont personne n'a encore parlé, un certain Napoléon Bonaparte, qui ne va pas tarder, lui, à prendre le pouvoir, mais en sachant l'utiliser. Alors, ce personnage de Robespierre, qui est complexe quand même, On compte au moins 13 films où il apparaît. Le plus connu, c'est Danton. Danton, d'Andrzej Wajda, le cinéaste polonais, en 1983. Alors, le problème, c'est que le personnage principal, c'est Danton. Ce n'est pas Robespierre. Il est vrai que Danton est incarné par Gérard Depardieu, qui trouve là un de ses plus beaux rôles. C'est Pszczurnak, un acteur polonais qui tient le rôle de Robespierre. On voit aussi Robespierre dans pas moins de 12 téléfilms. Et puis, il y a des chanteurs qui ont parlé, plutôt qu'ils l'ont chanté. Jean Ferrat, avec Ma France. Serge Reggiani. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, Michel Sardou, avec Danton. Encore une fois, Robespierre passé au second plan. Je vous remercie de m'avoir écouté.